Radio Kapi. Oh, Kapi.
Journal Belinda Bosuma.
Seize morts et 40 blessés. Bilan revu à la hausse de la dernière attaque de la Codeco à Tchélé dans l'Ituri. Bilan avancé par la notabilité du milieu qui estime que cela pourrait s'alourdir. Pour l'heure, trois villages du territoire de Djougou sont vidés de leurs habitants. 123 000 personnes vulnérables habitant la commune de Lancélé à Kinshasa, ciblées pour une assistance alimentaire. C'est un projet conjoint UNICEF-PAM. Objectif, compenser les pertes des revenus occasionnées par la pandémie de COVID-19. Et puis, lancement aujourd'hui à Boutembo de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, campagne menée par les femmes médecins traitants des cliniques universitaires du Graben. C'est en marge des activités du mois de la femme. L'une d'elles, Dr Justine Vouma, est l'invitée de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Les autorités coutumières des chefferies de Ndo, Kébou et de Mambisa avancent un bilan de 16 morts et 40 blessés lors de la dernière attaque mardi des miliciens de la Codeco, attaque survenue au groupement Tchélé dans le territoire de Djougou. D'autres corps des victimes ont été découverts après le retrait de ces assaillants de la zone. Ces chefs coutumiers condamnent ce énième massacre des civils et lancent un cri d'alarme au FARDC. Le récit de Ezekiel Mousalia.
Ces miliciens de la Codeco ont fait incursion mardi à Garoua pour venger la mort d'un des leurs abattu par le groupe d'autodéfense Zaïre. 8 corps ont été retrouvés le même jour, dont un homme et une femme qui ont été surpris au champ, précise des sources locales. Les FARDC sont intervenus pour traquer ces inciviques. Pendant leur fuite, ils ont continué à commettre des exactions dans la zone. Le chef de la chefferie d'Endo au Kébou précise que 8 autres corps, dont un policier et un militaire, ont été découverts après le retrait de ces hors-la-loi. Il y a eu également 40 blessés. Certains parmi eux sont admis dans des structures sanitaires locales. Drachou Baloufouga, un notable du milieu, estime que ces bilans pourraient s'alourdir car certains rescapés de cette attaque sont dans un état critique dans leur lieu de refuge. L'armée indique que ces miliciens sont déjà repoussés loin des zones de combat après avoir neutralisé une dizaine parmi eux. À l'heure actuelle, le village Guélé, Lalo et Tchélé sont vidés de leurs habitants. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu voisin, dans le territoire de Beni, secteur de Rwenzori, les mouvements des rebelles ADF sont signalés dans plusieurs localités du groupement Bassongora. Les acteurs de la société civile demandent à l'armée de renforcer les mesures sécuritaires dans la région pour éviter le pire. Des précisions avec Marc Marofimbo.
La dite alerte et des actions pour la paix en Afrique, APA, une structure de la société civile basée dans le secteur de Rwenzori. Cette organisation parle des mouvements et des renforcements en effectif des EDF dans la région environnant Kamango, Eringeti, au sud de la rivière Semuliki, dans les parcs nationaux de Virunga, ainsi que dans une partie de Karuruma. APA estime qu'il est temps que les autorités politico-administratives et militaires ainsi que leurs partenaires du domaine prennent des mesures préventives pour barrer la route aux probables attaques de ces rebelles. Nos efforts pour joindre les porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région Grand Nord de la province n'ont pas abouti. Mais signalons que depuis la récente massacre de Boulongo qui a fait au moins 18 morts de civils, l'armée a renforcé son présence dans la région afin d'y sécuriser la population. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et puis, RDC, 111 personnes détenues arbitrairement, c'est ce que révèle une coalition de certaines ONG internationales et nationales, parmi elles l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, AUDEF, et l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui exige des garanties d'un procès équitable pour ces personnes arrêtées à la suite de l'assassinat de l'homme d'affaires congolais, Simba Nguezayo, dans l'est de la RDC. En effet, c'est depuis le 3 novembre dernier que ces personnes se trouvent en détention préventive à la prison militaire de Ndolo sans être jugée, ce qui inquiète ces ONG qui interpellent les autorités congolaises et la justice militaire. On écoute un des responsables de ces organisations, l'avocat Henri Wembo de l'AUDEF. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Les membres du groupe d'intervention judiciaire du réseau SOS Torture en Afrique, qui est membre du réseau de l'Organisation mondiale contre la torture, formulent quelques demandes par rapport à l'affaire Simba Nguessayo à l'intention du président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. Notamment, veiller au respect des droits de la défense et garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'affaire Simba Nguessayo, en séparant avec toute transparence les actes de l'auditorat général et les actes de la commission d'enquête qui est présidée par son conseiller spécial en matière de sécurité. Le réseau, le groupe d'intervention judiciaire SOS Torture en Afrique, avec l'Organisation mondiale contre la torture, demande aussi à l'auditorat général et aux magistrats d'attribuer l'affaire aux magistrats indépendants et plus indépendants, respecter le principe de l'exception de la détention et libérer immédiatement les personnes arrêtées arbitrairement. Poursuivre aussi en justice les personnes sérieusement soupçonnées dans l'assassinat de feu Simba Nguessayo.
Interrogé à ce sujet, l'auditorat général des FARDC s'est dit non encore saisi de ce dossier qui évolue au niveau du Conseil national de sécurité. Ici, les enquêtes sur le meurtre de Nguessayo se poursuivent, indique l'auditorat. Je vous le disais en titre, 123 000 personnes de la périphérie est de la ville-province de Kinshasa vont bénéficier d'une assistance alimentaire, cela sous forme de transfert monétaire et dans le cadre d'un projet conjoint UNICEF, Programme alimentaire mondial PAM. Ces deux agences de l'ONU annoncent cette nouvelle dans un communiqué publié aujourd'hui. Plus de détails avec Honoré Missenga Kalala.
Les bénéficiaires sont ciblés comme des personnes vulnérables touchées par l'impact socio-économique du coronavirus dans la capitale congolaise. Le projet est financé par l'USAID et le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. Les 123 000 personnes habitent toute la commune urbano-rurale de Lancélé dans la partie est de Kinshasa. Dans leur communiqué conjoint, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial indiquent que ces personnes dépendent du travail journalier ou du commerce informel. Et le projet vise à compenser les pertes de revenus occasionnées par la pandémie de COVID-19. Les deux agences soulignent aussi que la commune d'Inselé fait partie des zones de santé de la ville, ayant les scores les plus faibles en termes de sécurité alimentaire et d'accès aux services sociaux de base.
Direction le Sud Kivu, la société civile de la commune de Kadutu dénonce le retour et la persistance des frais illégaux dans certaines écoles de cette municipalité. Cette structure citoyenne parle notamment des écoles pourtant conventionnées, mais qui chassent les élèves n'ayant pas payé les frais exigés, et cela d'une manière brutale, sans en informer les parents. Les responsables de ces écoles, eux, indiquent qu'il s'agit d'un arrangement avec le comité des parents pour faire face au fonctionnement de leurs établissements. Le point avec Emmanuel Elamegi.
Parmi les écoles de la commune de Kadutu citées, il y a celles qui sont conventionnées catholiques et d'autres sont du réseau protestant. Elles sont accusées de faire payer les frais dits illégaux en chassant les élèves qui n'ont pas payé, même dans la brutalité. Les frais allant même jusqu'au double de ceux fixés par l'arrêté du gouverneur de province. Monsieur Hippocrate Maroumé, président de la société civile de Kadutu, indique que ces écoles perçoivent ces frais et ne livrent aucun reçu.
La société civile de Kadutu a été saisie par les parents comme quoi il y a une nouvelle forme de escroquerie organisée par certains responsables des écoles qui sont en train de recouvrer la prime en chassant les élèves. Il y en a certains d'autres qui sont injuriés et qui n'étudient plus. Ce qui met notre éducation en danger et met aussi l'avenir de nos enfants.
Certains responsables de ces écoles reconnaissent les faits et parlent d'un arrangement entre écoles et les comités des parents. Au ministère provincial de l'EPST, l'on dit s'en tenir aux instructions contenues dans l'arrêté provincial du gouverneur de province fixant les frais légaux. Il est interdit de chasser un enfant de l'école pour n'avoir pas payé les frais scolaires, conclut notre source. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Parlant des frais scolaires, à Kananga, le directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1 désapprouve la démarche des écoles privées qui font payer les mois de janvier et février. Il a livré son point de vue mardi dans un entretien à Radio Kapi. Léon Tosuesue demande à ces établissements de lever des options de commun accord avec les comités de parents pour éviter certaines discordes. Il est également persuadé que sa démarche va privilégier un bon climat entre les écoles et les parents d'élèves. Léon Tosuesue explique au micro de Blaise Ndo.
Les écoles, que ce soit privées ou publiques, sont sous la gestion de l'État. Pour le mois de décembre, il n'y a pas débat. Si on n'avait pas payé avant la fermeture, à la reprise, chers parents, il faut payer parce que l'école a fonctionné au mois de décembre. Il ne restait que 3 jours pour aller en vacances. Les enfants ont repris le 22 février. En tant que tel, le mois de janvier et le mois de février même, on ne peut pas exiger les frais. L'école est à devenir un bien de la communauté. Tout ça doit être négocié. Ça ne peut pas être une décision prise unilatéralement imposée aux parents. Quand il y a une situation à l'école, il faut inviter les parents. Il faut discuter avec eux. Il faut leur montrer l'importance, la pertinence de ce que vous voulez faire. Si on a organisé les devoirs, on a fait tout ce qu'on a fait, approchez les parents. Discuter et lever l'option.
Autre nouvelle, au Kasaï oriental, la route Mbujimayi-Monedi tout longue de 132 km sur la nationale numéro 1 sera asphaltée à partir du mois de mai prochain. C'est ce qu'a annoncé mardi une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en mission à Mbujimayi. D'après Merlin Kazadi, chef de cette délégation, les études ont été menées pour évaluer les travaux à effectuer. Merlin Kazadi explique au micro des journalistes accrédités au gouvernorat du Kasaï oriental.
Nous confirmons cette annonce pour le mois de mai. D'ailleurs, l'entrepreneur sera Crexit, qui est déjà déployé. Nous sommes en train de voir comment nous allons équilibrer le charroi automobile. Nous avons un charroi déjà à Kamina qui est prêt. Moi-même, j'ai fait la route en 1 jour et demi. Nous avons vu les difficultés. Nous devons déjà planifier comment nous allons intervenir déjà au début du mois de mai. Les travaux seront divisés en 2 tranches. Entre Mbujimayi et Mweneditu, ce sera une route bitumée. Nous allons intervenir sur certaines parties pour qu'il y ait une fluidité du trafic. Mais entre Mweneditu et Kamina, ce sera une route en terre pour le moment. Et nous allons voir au fur et à mesure comment nous allons commencer, nous allons planifier un plan pour bitumer cette partie-là aussi. C'est un projet qui est souple. Nous n'avons pas encore mis des prix dessus. C'est un projet qui sera financé par Sopeco. Sopeco, c'est la société de péage congolais. Donc, nous allons d'abord voir ce qu'il y a et projeter les évaluations. Dans le programme que nous avons Crexit qui travaille, mais les Chinois sont des superviseurs. Chauffeurs, opérateurs, ce sont les locaux.
Politique. La RDC est un pays qui doit tourner totalement 24 heures avec son gouvernement et toutes les autres institutions. Tous les acteurs impliqués dans la formation du gouvernement doivent s'y ressaisir et se mettre en tête que tout le monde ne doit pas faire partie du gouvernement. Ces propos sont de Deli Sesanga, député national et une des têtes d'affiche du groupe des 13 personnalités politiques. Il pense qu'il faut dans l'avenir rationaliser le mode d'entrée en fonction du gouvernement. Deli Sesanga s'explique au micro de Billy Vanlutumba.
Nous avons des majorités parlementaires qui sont éclatées. Le gouvernement étant investi par l'Assemblée nationale, ça conduit généralement à des négociations politiques et d'apothicaires sur des détails, le partage de postes, qui prennent le pas sur même le programme que le groupe doit défendre ensemble. L'une des solutions, c'est de combiner 2 mesures. Il faut faire évoluer progressivement notre mode de scrutin proportionnel vers un scrutin majoritaire afin d'avoir des majorités compactes. De l'autre côté, c'est de supprimer cette phase d'entrée en fonction du gouvernement qui l'astreint à une investiture du Parlement. Nous avons pensé dans la pétition de l'envol pour réviser la Constitution. Une fois que le Premier ministre est nommé, il forme son gouvernement. Celui-ci vient présenter son programme. Et s'il n'y a pas de motion de censure qui est déposée contre ce gouvernement est réputé être entré en fonction. La chose qui nous complique aujourd'hui, c'est que le fait d'astreindre le gouvernement à l'investiture, en l'absence même d'une motion de censure, conduit à des surenchères pour lesquels, d'ailleurs, les acteurs politiques ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout.
Actualité internationale.
En Tanzanie, vous le savez, le président tanzanien John Magufuli est mort des problèmes cardiaques, d'après l'annonce faite par la vice-présidente à la télévision hier. Cela après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée du chef de l'État, réélu aisément en octobre dernier pour un second mandat avec 84% des voix. John Magufuli, 61 ans, était apparu pour la dernière fois en public le 27 février et pointe le monde Afrique. Des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé. Certes, il souffrait des problèmes cardiaques depuis 10 ans, a indiqué la vice-présidente. États-Unis, après les fusillades qui ont eu lieu mardi soir autour d'Atlanta, on sait désormais que le suspect inculpé de 8 meurtres est un jeune homme blanc. Il a attaqué 2 salons de massage et a tué 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique. La police semble écarter pour l'instant la thèse d'une attaque raciale, mais la communauté asiatique, victime d'agressions de plus en plus fréquentes depuis le début de la pandémie de COVID-19, fait part de son inquiétude. En effet, les crimes contre les Asiatiques ont bondi de plus de 149% dans les grandes villes américaines l'année écoulée.
L'invité.
Elle nous vient de Butembo. Les cliniques universitaires du Graben viennent de lancer ce jeudi la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une initiative des femmes médecins traitant dans cette structure sanitaire, initiative qui rentre dans le cadre de la célébration du mois de la femme. D'après le docteur Justine Vouma, l'une d'elles, à partir de lundi prochain, les bénéficiaires seront attendus et cela pour une durée de 2 semaines. Docteur Justine s'entretient à ce sujet avec Florida Kahambo.
Docteur Justine Vouma, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Comment va-t-elle se passer cette campagne?
Les femmes concernées par cette campagne, nous allons prendre toutes les femmes à partir de 25 ans. Donc de 25 ans jusqu'à 65 ans, elles sont invitées. Nous commençons le 22 pour terminer le 31 mars. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons prendre toutes les mamans qui vont s'enregistrer pendant cette période-là. Donc du 22 au 31, pour respecter les mesures barrières étant dans la période d'épidémie, de pandémie à COVID-19. Elles vont s'enregistrer pour qu'on puisse prendre une moyenne de 15 personnes par jour, 4 fois par semaine, donc le lundi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Comme ça, les autres, même après le 31, qui se seraient déjà enregistrés, on va continuer à faire ce dépistage même au mois d'avril. L'enregistrement, et ça nous insistons, ça va du 22 au 31. On vient, on s'enregistre, on remet le jeton et nous allons prendre 15 personnes. Donc, il y aura une liste que nous allons élaborer et chaque lundi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, nous allons prendre 15 personnes inscrites sur la liste à question. Nous demandons seulement une petite aussi contribution de 1 dollar. Donc, elles viendront avec 1 dollar et elles vont vraiment avoir tous les nécessaires pour le dépistage du cancer du col.
Est-ce qu'il y a un équipement suffisant pour cette campagne?
En tout cas, au niveau des cliniques universitaires du Graben, nous avons un centre de dépistage du cancer du col et pour le cancer du sein. Le problème qui se pose, c'est l'absence d'un financement pour équiper et pour appuyer correctement ce centre de dépistage. Alors c'est comme ça que ça semble ne pas bien travailler parce qu'on est obligé de faire payer les malades qui viennent pour les problèmes de sein, pour les problèmes au niveau du col, alors que si on avait un organisme partenaire qui pouvait nous appuyer, ça serait vraiment un service qui serait très organisé. C'est pour cette raison-là que nous l'avons vraiment écrit du cœur pour les gens de bonne volonté qui peuvent venir aider les cliniques universitaires du Graben. Et il s'agit seulement des petites cotisations des femmes médecins qui travaillent aux cliniques universitaires du Graben et l'assistance d'une religieuse oblate de l'Assomption qui s'est donnée aussi comme volontaire pour participer à cette activité-là.
Qu'est-ce qui vous a motivé, surtout en tant que femme médecin?
Ce qui nous a motivé, nous voulions aussi marquer une empreinte sur le mois de mars. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, avec le peu de moyens qu'on peut cotiser, nous avons le matériel, nous sommes là. Donc, nous allons aussi donner notre contribution à ce mois de mars pour faire ce dépistage, pour aider nos mamans pendant ce mois de mars.
Vous avez évoqué le problème des moyens, mais que les bénéficiaires de la campagne viennent seulement avec 1 dollar. En quoi 1 dollar là, va aider les cliniques?
Bon, ce n'est pas pour aider les cliniques le 1 dollar là. La technique que nous allons utiliser, c'est le PAP test. C'est le matériel qui est disponible et c'est ce qui peut être facilement réalisable. Donc, dans la réalisation, le prélèvement. Le problème se pose maintenant pour la lecture des lames là que nous allons prélever. Nous avons notre médecin qui est en train de faire l'anatomie pathologie à Kinshasa et le 1 dollar là va nous aider pour l'expédition de ces lames jusqu'à Kinshasa. Et lui aussi, il nous a dit qu'il va nous les lire aussi gratuitement pour avoir les résultats.
Quel message non seulement aux femmes bénéficiaires de cette campagne, mais aussi à toute la population et tous ceux-là qui peuvent peuvent venir en aide pour que les femmes bénéficient de ces traitements de manière permanente.
Oui, maintenant nous allons faire une prévention secondaire avec le pap test ici, parce que la bonne lecture nous permet déjà de détecter un cancer qui pourrait survenir en 2031. Et c'est déjà un avantage.
Docteur Justine Vouma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous pour l'intérêt manifesté.
Notre invitée est l'une des femmes médecins traitants des cliniques universitaires du Graben à Butembo. Elle s'entretenait avec Florida Kahambu. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta. Supervision de Martin Sebujangwe, à la technique Dieudonné Nyangasa et Belinda Bosuma. C'est moi, je vous l'ai présenté avec plaisir. Merci.